Cette semaine, on a coupé l'étude sur l'Église parce qu'on rentre dans les fêtes d'automne, les fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, on va parler de la fête des trompettes, qui est la première fête d'automne de l'Éternel. On va parler des fêtes perpétuelles, parce que Dieu, quand il les a instituées, il a bien dit, que ce soit les fêtes du printemps ou les fêtes d'automne, il a dit que c'était des fêtes perpétuelles. Quand tu mets le mot perpétuel, c'est parce que tu veux dire que c'est des fêtes qui doivent être fêtées sans arrêt, tant qu'il va y avoir de la vie sur la terre. Des fêtes pour toujours. Puis tu regardes même dans les prophéties de l'Ancien Testament, tu vois que pendant le règne des mille ans, ils vont continuer à fêter les fêtes de l'Éternel. Fait que je vois pas pourquoi que l'Église n'en parlera pas. Surtout qu'il y a des raisons d'en parler. C'est des fêtes qui sont instituées par Dieu dans des dates précises parce que Dieu, dans son calendrier de prophétie, il a accompli des choses. On l'a vu dans les fêtes du printemps, puis les choses sont arrivées dans les dates exactes, comme la fête de Pâques, la mort de Jésus était cette journée-là exacte, puis la Pentecôte, la même chose, la fusion du Saint-Esprit, c'était tout annoncé que c'était pour avoir lieu, tout avait un message prophétique là-dedans. Puis les fêtes d'automne aussi ont un message prophétique pour l'automne, qui est la fin de la saison. Dieu veut nous parler pour nous dire, il prévoit qu'on pense à des choses pendant cette période-là. Puis ça sous-entend la fin de la période de la grâce, avant le retour de Jésus. Ces fêtes instituées par Dieu nous annoncent des dates d'événements prophétiques pour notre temps, les fêtes d'automne. Les fêtes du printemps, c'était des dates au début de l'Église. Les fêtes du printemps, qui en réalité, c'était les fêtes du début de la saison. Là, on est comme à la fin de la saison. Quand Jésus va revenir, c'est la fin finale de la saison du temps de la grâce. Puis les fêtes prophétiques de la fin, c'est dans ce temps-là. Puis on est quasiment à la fin présentement. Donc, ces fêtes-là ont un message pour nous aujourd'hui. Qu'il faut être conscient de ce que Dieu a dit, parce qu'il y a un message prophétique. Puis, mec, ça commence à arriver, ceux qui ont vraiment entendu parler de cela, ils vont dire, c'est quoi ça qui arrive, là? Puis, ils vont être déboussolés. Puis, Dieu veut le contraire. Il veut qu'on soit averti, puis il veut aussi qu'on soit préparé comme il demande qu'on soit prêt. Parce qu'il y en a que ça va être un jour à l'improviste, quand Jésus va revenir. Ils s'en attendaient pas. Ils n'ont pas été avertis. Soit qu'ils n'ont pas écouté, ou ils ne sont pas intéressés à vouloir le savoir. La Bible dit que les fêtes données par Dieu sont une ombre des choses à venir. Ça, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Que les fêtes de Dieu, je ne parle pas des fêtes catholiques ou les fêtes que le gouvernement du Canada a faites 1er juillet, là. Ça ne change pas grand-chose dans notre vie. Il n'y a pas rien de prophétique pour la fête que le gouvernement y a installée. Mais les fêtes de Dieu dans l'Ancien Testament avaient une raison d'être. Paul lui dit aux Colossiens « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. » Les fêtes, c'est l'ombre de quelque chose à venir. Mais Louis II, il a dit « c'était l'ombre des choses », mais si tu vas lire le texte original, c'est au présent, c'est pas au passé. Le mot qu'il y a là, c'est l'ombre des choses à venir. C'est encore quelque chose qui est, ces fêtes-là, une ombre de ce qui devait venir. Puis si tu vas lire le mot « ombre » dans le dictionnaire grec, le mot « ombre », c'est un croquis, un aperçu. Une esquisse de ce qui doit arriver, d'où ce qui est sur le point de faire. Fait que quand, au lieu de dire « c'est une ombre des choses à venir », ça dit « c'est un croquis des choses à venir ». C'est un aperçu des choses à venir. C'est un esquisse de ce qui va se produire des choses à venir. C'est ça que Dieu veut dire quand Paul y écrit cela. Puis donc, celui qui lit ça, puis est dans cette période-là, doit tenir compte de ce qui a été dit dans ces fêtes-là, ou ce que le message que Dieu a voulu nous donner, parce que c'est un message qui nous parle à nous pour aujourd'hui. Comme j'ai dit tantôt, il y a eu les fêtes du printemps, qui étaient une figure du début de la période de la grâce. Puis ça, je vous expliquerai pas les fêtes du printemps, j'en parle au printemps. Si jamais vous voulez le savoir, allez sur mon site publicationévangélique.com, puis vous allez voir dans les divers enseignements, vous allez voir des fêtes du printemps, je les ai expliquées, mais de toute façon, je les réexplique à tous les ans quasiment, tant que le Seigneur me le met à cœur. Fait qu'il y a eu les fêtes du printemps, qui étaient une figure du début de la grâce, puis il y avait un sens prophétique qui s'est accompli, puis on le voit, puis on le comprend aujourd'hui, puis il y avait la fête des pains sans levain là-dedans, il y avait la Pâque, il y avait les prémices, puis il y avait la Pentecôte. Mais là, on va parler des fêtes d'automne qui avaient un sens prophétique pour le peuple juif, parce que les fêtes d'automne avaient un message pour les Juifs. Mais les fêtes d'automne nous parlent de la fin de la saison des récoltes. C'est prophétique, là, sur la fin de la période de la grâce. C'est pour nous aujourd'hui parce qu'on le sait que ça s'en vient bientôt. Jésus, il est à la veille de revenir. On voit les prophéties bibliques de l'Apocalypse, là, puis le contrôle mondial, il est presque installé, là. Tout est là, là. Ça s'en vient. L'Antéchrist est à la veille de prendre le pouvoir. Comme que c'était dit qu'il va avoir un homme de péché, puis qu'il va avoir toutes sortes d'événements, mais c'est pas le but, c'est pas ça que je veux parler aujourd'hui. C'est des événements que Dieu va faire, puis qui s'adressent à nous. Puis on est comme avertis d'avance. Il y a quatre fêtes dans les trois dates précises que Dieu a données. Il y a quatre fêtes. Les deux premières fêtes, il y a cette semaine, aujourd'hui, c'est la fête des trompettes qui est commencée. La semaine prochaine, il y a une autre fête, c'est la fête de l'expiation ou du grand pardon. Puis après ça, il y a la fête des tabernacles qui dure une semaine, mais il y a deux fêtes dans la fête des tabernacles. Fait que les trois semaines en ligne, je vais vous parler de ces fêtes-là. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Comme la fête des trompettes, ça annonce une prise de conscience que les trompettes de l'Apocalypse sonneront puis que nous devons nous préparer. C'est ça que Dieu veut nous dire aujourd'hui avec cela. Les quatre fêtes, lorsqu'ils sont compris, sont destinées pour nous comme des avertissements pour nous préparer pour le retour de notre Seigneur puis de l'enlèvement de l'Église. Comme je vous disais tantôt, il y en a qui ne seront pas prêtes. Tu regardes la parabole des 10 vierges, là, ça en est un exemple. Il y en a qui étaient dans l'huile puis portaient du fruit, ils étaient prêtes. Les autres, leurs lampes s'éteignaient, puis ils n'étaient pas prêtes. Qu'est-ce qui est arrivé, la différence avec les deux groupes? Celles qui sont prêtes vont partir. Prêtes, pas prêtes, Dieu revient. Jésus revient. Les prêtres vont partir, les autres vont rester là, puis les autres ils ont essayé de cogner pour rentrer, puis il dit, je vous connais pas. Dieu vient chercher les prêtres. Puis il y a plein d'enseignements de Jésus qui nous parlent de cela, que de veiller pour que ce jour-là ne vienne pas à l'improviste. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Il y a plein de passages que je pourrais amener, mais là, je vais en parler un ou deux à la fin, mais c'est tout. Le but, c'est de comprendre le réveil qu'il doit avoir dans notre cœur pour dire, les vierges, quand ils ont entendu le cri, « Voici l'époux, venez à sa rencontre! » Ça dit, « Tous se réveillèrent et se préparèrent. » Dieu veut qu'on soit en action quand il va revenir, qu'on soit dans le travail, qu'on soit réveillé, qu'on soit en feu pour le Seigneur. Qu'a-t-il annoncé par la première fête de l'automne? Bon, ben on va parler un petit peu de ce qui est annoncé, parce qu'il y a qu'est-ce que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, puis il y a la manière que les Juifs, on va regarder la manière que les Juifs comprennent ça aujourd'hui, mais on va voir aussi ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui avec les versets de la Bible. Dieu a institué la première fête d'automne en l'appelant le jour d'acclamation. C'est le titre qu'il a donné. Dans Lévitique 23, le verset 24 et 25, Dieu, il dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois. Là, vous allez dire, ouais, mais septième mois, on n'est pas dans le septième mois, on est dans le neuvième mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'utilisait pas le calendrier lunisolaire qu'on utilise. Dieu avait un calendrier lunaire qui marchait avec la lune. Puis les années n'arrivent pas en même temps, ils ne calculent pas les années à la même chose que nous. Pour eux autres, le septième mois, ça tombe pour nous dans le neuvième, puis des fois dans le dixième mois, cette date-là. Ça marche avec la lune. Puis, pour eux, présentement, ils sont dans le septième mois, et aujourd'hui, c'est le premier jour du mois dans leur calendrier lunaire. Fait que c'est aujourd'hui que c'est commencé à fêter cette fête-là. Il dit, vous aurez un jour de repos, c'est un jour de sabbat additionnel, même si ça tombe pas, cette année, ça tombe un samedi, mais il y a des années, ça peut tomber un vendredi, ça peut tomber un lundi. Ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine, d'année en année, ça change. À part du sabbat du samedi, cette journée de fête-là avait une journée aussi de sabbat, qui veut dire de repos, qui veut dire tu travailles pas cette journée-là pour eux. Il dit, c'est publié au son des trompettes. Ça veut dire que cette journée-là, il devait sonner des trompettes. Ça avait un symbole. Dieu avait un symbole quand il disait qu'il voulait que cette fête-là soit publiée au son des trompettes. Puis c'est une sainte convocation. Quand on parle d'une convocation sainte, une convocation, c'est que Dieu fait un appel au peuple à venir dans sa présence. Même chose qu'à tous les sabbats, qui est un appel aux gens de lâcher le travail puis d'aller rencontrer Dieu. Aller louer Dieu, aller prier Dieu, offrir les offrandes à Dieu. C'était de même dans ce temps-là, puis c'est encore de même aujourd'hui, même dans les églises évangéliques. Quand tu vas à l'église, c'est une sainte convocation. C'est Dieu qui nous appelle à nous réunir, puis à former l'église, à se réunir en église, puis de chanter des chants, puis de prier. On l'a vu dans l'étude de l'église, là, que c'était la coutume. Dans ce temps-là, puis ça l'est encore aujourd'hui, ça fait partie que Dieu veut rencontrer son peuple. Il veut qu'on prenne du temps, qu'on lâche, qu'on soit une journée de repos. Là, ça veut dire, t'arrêtes de travailler, puis tu prends une journée par semaine, au moins, pour aller rencontrer Dieu. Il n'y a pas d'amen à quelque part. Amen. Dieu veut vous le rencontrer parce qu'il va avoir de vos nouvelles. Il veut garder un contact avec nous autres. Il nous aime. Il ne faut pas voir ça, « Oh non, je suis obligé d'aller à l'église. » Non, c'est une joie d'aller à l'église, d'aller rencontrer le Seigneur, d'aller louer le Seigneur, de se réjouir de ses promesses, d'entendre des choses qu'il a déclarées, parce que ça nous apprend des choses. Quand on étudie la parole, on apprend des affaires. Dieu veut nous former avec cela, puis il veut nous perfectionner. Il y a des raisons dans son plan. Il dit, ça va être une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, vu que c'est un jour de repos, c'est un sabbat, il a pas le droit de travailler cette journée-là, c'est une journée de fête, c'est une fête aller rencontrer Dieu. Tu lâches ta job, nous autres on est bénis dans un sens, on a une fin de semaine de vacances. Eux autres, il y avait juste une journée, ils faisaient leur travail en 6 jours, puis le septième, ils allaient rencontrer le Seigneur. Nous autres, on travaille en 5 jours, des fois 4. Puis des fois, 4 heures par jour. Ça, c'est une autre affaire. Comme moi qui est chauffeur d'autobus. Il dit, vous ne ferez pas d'œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est une journée de se réjouir puis d'aller offrir des offrandes à Dieu. Dieu, il aime ça de nous voir qu'on s'approche de lui puis qu'on s'en vient donner une part de nous, ce qu'il nous a donné. Ça fait partie de son plan. Mais il veut qu'on prenne notre responsabilité là-dedans, puis qu'on se sente concerné, puis on dit, Seigneur, je m'en viens te rencontrer. Puis il a répété cette fête-là dans Nombre 29 au verset 1. Il dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, puis vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. C'est là que rentre en question... Il appelle ça la fête des acclamations. Acclamer, c'est des cris ou un bruit de trompette. On va le voir tantôt dans le mot strong, le dictionnaire biblique. De nos jours, les Juifs ont modifié la fête des trompettes. Faut pas s'étonner que les gens, des fois, ils suivent pas à 100% ce qui est écrit. Eux autres, ils appellent ça le Rock Hoshana. Puis ça, ils appellent ça la tête ou le début de l'année. Le jour de l'acclamation, ils voient ça comme si c'est le jour de l'an, puis ça sera le début de l'année. mais c'est pas biblique. Parce que Dieu l'avait dit à Moïse que ce serait le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année. C'est le mois où il y a eu la Pâque. Dieu avait déjà déclaré que le premier jour de l'année, c'est la Pâque. C'est le mois de la Pâque. La Pâque était le 14e jour du mois de Nissan, mais qu'il y a le premier de Nissan, que ça serait le début de l'année. Mais les Juifs ont changé ça, puis ils veulent fêter ce jour-là d'aujourd'hui comme étant le premier jour de l'année de la création de la planète. Ils appellent ça le Rosh Hashanah. Puis l'année que c'est aujourd'hui et demain, ils ont étalé ça sur deux jours. Puis pour eux autres, c'est le début de l'année 5787 depuis Adam. Vous savez que nous, quand on calcule à partir de Jésus, 2000 ans après Jésus, mais il y avait 4000 ans avant Jésus, on est autour de 6000 ans depuis Adam et Ève. Fait qu'eux autres sont rendus à 5787. Il manque quelques 200 quelques années, là, puis on est 6000 ans juste selon leur calendrier à eux. Puis eux autres, dans leur coutume, c'est qu'ils allument des chandelles, ils allument des bougies dans cet événement-là qui est le jour de l'anniversaire de la Terre pour eux. La signification spirituelle et symbolique pour les Juifs modernes, là, c'est comme je vous parlais, c'est la création du monde, que la fête commémore l'anniversaire de la création de l'univers, puis des premiers humains, Adam et Ève. Puis ça parle aussi dans leur signification à eux, le jugement divin. C'est le moment où, selon la tradition, Dieu examine les actions de chaque être humain pour décider de son sort pour l'année à venir. Dans cette journée-là, Dieu regarde les gens, puis comment est-ce que les gens sont face aux autres, puis tout ça, les gens vont récolter dans l'année des jugements de Dieu face à l'humanité. Des fois, ça peut être des jugements favorables, s'il est bien vu par Dieu, puis des fois, ça peut être des punitions que Dieu va étaler dans l'année. Puis, il y a une autre idée aussi qui est là dans leur pensée moderne, que c'est un jour redoutable, ce jour-là. Ça l'ouvre le Yamin Noraim. C'est les 10 jours de pénitence. Parce qu'à partir de ce jour-là, ils calculent les 10 prochains jours pour arriver à la prochaine fête, qui est la fête du grand pardon. Puis pour eux autres, c'est un jour redoutable parce que ça rouvre, cette fête-là aujourd'hui, rouvre qu'on s'en va vers le grand pardon, mais il faut que tu examines ta vie pour voir comment ce qui a rendu ta vie spirituelle. Pour dans leur coutume, eux autres, là, ils vont aller voir toutes leurs connaissances, les gens qu'ils ont rencontrés, toutes les chicanes qu'ils ont eues, toutes les affaires, ils vont se demander pardon, puis ils vont essayer de se réconcilier. Ça fait partie du cheminement pendant 10 jours jusqu'à temps qu'ils arrivent à la prochaine fête, qui est le jour du grand pardon, la semaine prochaine, où ce que tout le monde se repent, puis ils vont jeûner pour cet événement-là, pour que Dieu pardonne leurs péchés. Le but, c'est de mettre leur vie en règle devant Dieu à la manière qu'eux autres le pensent. Mais c'est quand même important de réaliser cela, parce qu'il y a certains versets qui parlent dans ce sens-là, dans le Nouveau Testament. Puis c'est ça qu'il faut regarder, qu'on est à la fin de la période de grâce, puis la journée qu'on est aujourd'hui, on va parler de trompette, puis on va parler aussi qu'il faut se préparer à la venue de Jésus, puis qu'il faut se repentir s'il y a des choses qui sont pas de Dieu dans nos vies. Il faut abandonner le péché, puis il faut s'humilier devant le Seigneur pour être à jour aux choses qui vont revenir, ou qu'on soit pas trouvé errant et éloigné de lui. Vous voyez? Les principales traditions pour les Juifs modernes, là, c'est le son quand ça dit que c'est publié au son de la trompette. Eux autres, c'est des chauffards. Ils soufflent dans une corne de bélier pour appeler à la repentance puis au réveil spirituel. Puis ça a une vérité là-dedans quand même, qu'on se prépare, parce que si c'est la fin de la saison, c'est la dernière récolte finale, où ce que Jésus revient puis ramasse les derniers qui restent, puis les ceux qui sont prêts, qu'on a à se préparer avant que ça arrive. Ça dit dans les commentaires que j'ai lus, c'est qu'eux autres, dans cet événement-là de 2 jours, ils peuvent sonner de la trompette des centaines de fois pendant ces 2 jours-là. C'est pour eux autres, c'est... Puis là, ça des centaines de fois, peut-être à tous les demi-heures, à tous les 15 minutes, pour être sûr que ça rentre dans l'ambiance. C'est le temps de se préparer puis de se repentir parce qu'on arrive à la fin. Le peuple juif, quand il parle... pour revenir au son de la trompette, le son du chauffard, le mot qui est là dans la Bible, dans le Strong, c'est un alarme. Le mot, quand ils disent le jour d'acclamation, c'est une fête publiée au son de la trompette. Nous autres, en français, on écrit trompette, mais ce mot-là voudrait dire aussi alarme. C'est un signal, au son du signal, au son des alarmes, ou au son d'une trompette, ou au cri, un cri. Quelqu'un qui fait une acclamation, c'est un cri, c'est au son d'un cri. Ah! Il crie en l'honneur de la fête des acclamations, des hurlements, des cris de guerre, ou un cri d'alarme, ou un cri de joie, des alarmes de guerre, des cris de bataille, ou un coup de trompette pour la marche. Ça a tout le même sens dans ce mot-là, trompette. Ça veut dire que quand on lit trompette, on pourrait dire... au son d'un cri, au son, c'est un alarme. Mais une alarme, on le sait que c'est pour nous avertir, pour qu'on se réveille quand on est en train de dormir. Ça a le fond de l'idée pour réveiller le peuple de Dieu. Puis pourquoi que les Juifs disent que c'est un jour redoutable, puis que c'est un jour de jugement de Dieu? Parce que c'est basé sur un psaume. Dans le psaume 81, dans certaines Bibles, c'est le verset 3 et 4, puis dans d'autres, c'est le verset 4 et 5, ça dépend de quelle Bible que tu utilises, là. Ça dit « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune », qui est cette fête-là de la nouvelle lune ou de l'acclamation, là, à la pleine lune, au jour de notre fête. C'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Ça, c'est écrit ça, nous autres, en français. Mais encore, en lisant le français, on comprend pas en profondeur ce que la phrase veut dire. Que c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Parce que le mot ordonnance qu'on a, si tu vas lire l'original encore, c'est mispat, puis c'est jugement. En réalité, c'est pas le mot ordonnance, donc, qui aurait dû être écrit en français, ça aurait dit c'est un jugement du Dieu de Jacob. Ce jour-là des trompettes. Ça dit sonner de la trompette à la nouvelle lune, à jour de la fête, là. C'est une loi pour Israël, un jugement du Dieu de Jacob. Puis le mot, c'est jugement ou un procès ou l'exécution d'un jugement. C'est pour ça qu'eux autres disent que ce jour-là, ça annonce un jugement de Dieu, ce son de trompette-là. On sonne la trompette parce qu'il y a un jugement qui est là. Dieu va analyser nos vies, puis on va récolter dans notre année selon la manière où on est rendu. Si on ne s'est pas repenti, mais on est dans le péché, Dieu va nous le remettre dans notre vie. Pour nous, disciples du Seigneur, à la fin de la période de la grâce, nous voyons dans la révélation de l'Apocalypse qu'il y aura 7 sons de trompette, précédant des jugements du Seigneur contre sur cette terre, là. Parce que Jésus revient, puis ça dit dans 2e Thessaloniciens 1:8, je ne l'ai pas mis ce verset-là, mais ça dit que le Seigneur va revenir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Puis il dit, il vient ce jour-là pour être admiré dans ses saints, puis dans tous ceux qui auront cru. Il vient dans ce jour-là pour accueillir favorablement ceux qui l'attendent, puis il vient en même temps dans ce jour-là pour punir ceux qui connaissent pas Dieu. Puis ça dit que les gens sur la planète, ça dit, ils vont se dire, voici l'agneau qui revient, puis dans sa colère, il dit... que la colère de l'agneau est venue, puis qui pourra subsister? Puis ça dit que les gens ils vont se cacher dans les grottes, puis dans les collines, puis dans les montagnes, pour essayer de se cacher de la colère de l'agneau, parce que c'est le temps de la colère de Dieu. Fait qu'on voit là-dedans que les trompettes sont sonnées pour avertir qu'il y a des jugements qui s'en viennent. Les sons des trompettes Tu vois dans le Nouveau Testament, pour nous, que ça annonce que Jésus revient, parce que on va voir un verset tantôt qui dit que c'est la dernière trompette que Jésus revient. Fait que les trompettes sont sonnées avant, puis quand on voit ces choses-là arriver, c'est pour qu'on se prépare à sa venue. Qu'on soit pas dépourvu puis dire « Oh, j'ai pas eu le temps de me préparer, j'ai pas eu le temps de me repentir, j'ai pas eu le temps de marcher pour le Seigneur, je suis trop occupé dans mes affaires. » Puis là, on n'est pas là dans la présence de Dieu. On est loin du Seigneur. Puis il y a beaucoup, il y a des milliards de personnes comme ça, là, présentement. Sans compter ceux qui étaient dans les églises puis sont plus là non plus. Lorsque la dernière trompette sonnera, ce sera la descente du Seigneur puis l'enlèvement de l'Église. Dans 1 Corinthiens 15, 52, ça nous parle de l'enlèvement. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. L'enlèvement, c'est en un instant, en un clin d'œil, qu'on est rassemblé avec lui, à la dernière trompette. La trompette sonnera, puis les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Ça veut dire que toutes les autres trompettes ont sonné avant. Ça veut dire qu'on est ici sur la terre et on va voir ces événements-là arriver, qui sont comme des sons de trompette pour nous avertir. Hey, Jésus revient là, à la dernière. Faut que tu sois prête. Vous avez le droit de dire amen de temps en temps. Ça fait penser, les sons de trompette, là, ça fait penser au verset qui nous parle du cri qui a été lancé pour réveiller les chrétiens afin qu'ils se préparent. Si on voit ça dans Matthieu 25, dans la parabole des 10 vierges, ça dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, on cria ». Le cri, c'est un cri de réveil, un son de trompette, c'est une acclamation. C'est pour réveiller les chrétiens qui sont endormis. Hey, l'époux arrive, ça dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ces cris-là ont le but que les chrétiens se réveillent. Les sons, les cris de trompette ou les cris, c'est dans le but que les chrétiens se réveillent. Quand on voit les événements s'accomplir exactement comme c'était écrit, on le sait que ça s'en vient. On le sait que ça s'en vient. Puis, mec, ça arrive, la dernière trompette, on part avec. C'est pour ça que Dieu veut nous parler aujourd'hui, pour qu'on comprenne ce qui arrive dans la société, dans la vie, puis qu'on ne soit pas pris au dépourvu, puis tout découragé quand que ça va arriver. Nous savons qu'il y en aura 7 trompettes qui sonnera comme une alarme, puis ça va être des temps de grande tribulation. Puis ça, c'est des signes de Dieu pour annoncer le retour du Seigneur à la dernière trompette. Lors de l'enlèvement, c'est aussi dit qu'il y aura un cri d'un archange au son de la trompette de Dieu. Les trompettes que Dieu va faire sonner, ben c'est lui qui décide quand qu'il sonne ces trompettes-là dans la Bible. Là. C'est pas nous. On décide de rien. On fait juste comme subir ces trompettes-là. C'est appelé dans le texte, on va voir à propos du retour du Seigneur puis de l'enlèvement, c'est la même chose qu'un cri puis un son de trompette. Comme je vous disais tantôt, le mot trompette veut dire aussi un cri de guerre ou un cri d'avertissement. Puis c'est un archange qui va sonner, qui va lâcher le cri en même temps que la trompette va sonner, que les trompettes vont sonner. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. » La voix là d'un archange va sonner, puis il va y avoir un son de la trompette de Dieu. Il va descendre du ciel, Jésus va descendre du ciel, puis les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants, on va être enlevés, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement, c'est un rassemblement des morts en Christ et des vivants qui attendaient le retour. Le Seigneur descend avec les morts, puis nous, on les rejoint en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ça dit que c'est un archange qui va lâcher le cri, puis il va avoir en même temps la trompette de Dieu. Puis si tu regardes les sons des trompettes, ça le dit que c'est un ange de Dieu qui sonne des trompettes à chaque trompette. Ils ont chacun des trompettes. Puis ça, c'est symbolique pour nous dire, écoutez ces cris d'alerte-là, ces alarmes-là, c'est des signes pour vous montrer que Jésus revient bientôt. Préparez-vous. Pendant les trompettes, il y a une période terrible qui va se dérouler sur la terre, des catastrophes qui se manifesteront sur la terre, puis dans le ciel. Juste avant son retour, comme Yeshua l'a annoncé dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, puis aussi dans l'Apocalypse au chapitre 8. Si tu vois, là, je n'amène pas tous ces versets-là. Si vous voulez avoir, dans Matthieu 24, tu vois les événements sur la terre, là. La fonte des glaciers qui va faire qu'il y a un surplus de l'eau qui va avoir, de l'angoisse parmi les nations qui ne seront qu'à faire au bruit de la mer et des flots. Ça parle des signes que des étoiles vont tomber du ciel, puis la puissance des cieux va être ébranlée. Il va y avoir des catastrophes sur la terre, des guerres, puis de toutes sortes, puis le rapport de l'apostasie dans l'Église, puis tous les problèmes que sont annoncés dans Matthieu 24. Tout ça, c'est avant le retour de Jésus. Il dit alors, on va voir le Fils de l'homme qui descend avec ses anges, puis la trompette retentissante, puis il va rassembler ses élus aux quatre coins de la terre. Mais les périodes d'avertissement, c'est les douleurs de l'enfantement. Tout ce qui est annoncé, c'est les différentes douleurs que la terre va subir avant le retour de Jésus, puis que les chrétiens vont être témoins de cela. Jésus nous a avertis afin qu'on reste vigilant puis qu'on se rappelle qu'il nous a annoncé les temps durs puis qu'on doit veiller puis rester ferme malgré les choses qui vont arriver. Dans Marc 13, verset 35, ça nous dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. » On parle du retour pour l'enlèvement. « Veille parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. » Puis il n'y a personne qui le sait quand. Tu as juste les signes qui te disent « Ça s'en vient. » Mais si quelqu'un vous dit une date, oubliez ça, c'est pas de Dieu. Dieu, il avertit pas personne avec une date. Il dit, que ça soit le matin ou que ça soit le soir, là, au milieu de la nuit ou au chant du coq ou au matin, là. Faut pas oublier que si quelqu'un dit, oh, il va venir pendant la nuit. Oui, c'est en nuit chez eux, mais c'est au matin, c'est quelqu'un qui vit sur le bord de la planète. Fait que ça sera pas pareil pour tout le monde, là. On sera pas à même heure, mais ça doit être comme un éclair qui part de l'Orient jusque dans l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Claude, il dit, il va éclairer la terre de sa gloire. Puis il va même anéantir l'Antéchrist par l'éclat de son avènement. Il dit, au verset 30, juste à suivant, il dit, « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je le dis à tous, veillez. » Voyez, le but des avertissements, c'est pour qu'on dorme pas, qu'on soit réveillé, qu'on soit actif dans l'œuvre de Dieu, en train de servir le Seigneur. Parce que si, craignez qu'il ne vous trouve endormi, là, le mot endormi que là, c'est sûr que c'est pas à cause que tu vas dormir passer la nuit, là, le problème, c'est de dormir spirituellement. Dans le mot original, là, c'est marqué céder à la paresse. Le dictionnaire Strong, il dit, le mot endormi veut dire céder à la paresse ou au péché ou être indifférent à son salut. Qu'on soit rendu déconnecté, puis qu'on vit plus en chrétien, qu'on marche comme le reste du monde, qu'on est plus là, tu sais, dans l'œuvre. On est déconnecté. Craignez qu'il nous trouve déconnectés. Autrement dit, écoutez les sons qui sont des avertissements, les trompettes pour dire, regardez dans quel temps vous êtes, puis préparez-vous. Puis ça nous prépare à la semaine prochaine au grand pardon. Puis on va en parler la semaine prochaine. Cette fête est un avertissement prophétique, puis elle est donnée dans le but que l'on se fortifie dans le Seigneur. Tu sais, quand il arrive des grosses pressions là, dans la vie, là, faut pas que ça nous décourage, c'est le contraire. Ça devrait faire qu'on devient plus encouragé puis plus fort dans le Seigneur. Puis pour y arriver, c'est qu'on va se mettre à prier plus, puis on va demander au Seigneur de nous donner la force de passer à travers. Jésus a dit de veiller et prier afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui arrivera dans cette période-là, parce qu'il sait que ça va être dur pour les chrétiens. Luc 21, 36, veillez donc, ça c'est d'être réveillé, c'est le contraire de dormir. Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça parle exactement au jour de l'enlèvement, d'être debout devant le Fils de l'homme qui est Jésus, qui revient pour l'enlèvement. Donc, ça parle à qui? Ça parle à nous qui sommes vivants à la fin des temps. C'est précis pour nous. Puis il sait qu'il y en a qui vont dormir, parce qu'il le dit. Deux dans un champ, un va être pris, l'autre va être laissé. Deux dans un lit, un va être pris, l'autre va être laissé. Deux à une meule, un va être pris, l'autre va être laissé. Ça veut dire que Dieu connaît celles qui sont réveillées, puis c'est celles qui sont réveillées qui montent, puis les autres vont rester là. Mais les avertissements sont donnés à tout le monde. Ça va être semblable au temps de Noé. Jésus l'a dit aussi, cette comparaison-là, qu'à son retour, ça va être comme au temps de Noé. Noé, lui, était averti qu'il y aurait un déluge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé. C'est exactement ça qui est écrit sur ma feuille. Il savait, Dieu l'a averti, puis quand t'es un homme averti, il dit, ça en vaut deux, c'est pas écrit dans la Bible, mais ça devrait être quelque chose qu'on pense, le fait de se sentir averti, qu'on soit en train de se préparer. Le retour s'en vient, puis il faut que tu sois debout quand ça va arriver. Dans Hébreux 11, 7, ça dit, en parlant de Noé, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on voyait pas encore, parce que lui, il n'avait pas de raison de craindre qu'il y aurait une pluie. Il n'avait jamais mouillé dans son temps. C'était juste une rosée qui tombait dans ce temps-là. Puis ça le dit dans le texte. Fait qu'il n'avait pas de raison de penser, « Ouais, de la pluie qui tombe du ciel, wow, autant de minutes, là, il va tomber 40 pieds de pluie. 40 pieds de pluie, voyons donc. » Non, ça dit qu'il va couvrir même les montagnes. 40 jours de pluie qui va faire que toutes les montagnes vont être couvertes. Il doit être averti, peut-être d'un rêve, peut-être Dieu il a dit dans son esprit, puis c'était impossible que ça arrive dans ce temps-là, puis lui, il était pas sur le bord de l'eau, lui-là, il était sur la terre ferme, il a bâti son arche drette là, il a cru malgré que tout le monde a pu rire de lui, c'est pour ça qu'il est appelé un prédicateur de justice, il a fait ce qui était juste, puis il a prêché par son exemple, il a obéi à Dieu. Peu importe ce que le monde pense, il dit, moi, je l'ai bâti, cette arche-là. Personne ne craint ça, les météorologues de ce temps-là, de la dire, voyons, non, qu'est-ce que tu fais là? Lui, il s'en foutait, il croyait à Dieu. Nous aussi, on croit Dieu. On croit ses écrits, puis c'est de même qu'on démontre notre foi. Dieu, il sait si on a vraiment la vraie foi, ou si on a juste une croyance d'une légende urbaine, là. Ceux qui ont vraiment la foi, ils vont lever le culotte et ils vont commencer à travailler, comme Noé. Divinement averti des choses qu'on voyait pas encore, mais il était saisi d'une crainte respectueuse. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un avance puis qu'il obéit? C'est parce qu'il y a une crainte de Dieu puis il y a du respect pour Dieu. Parce qu'on reconnaît que Dieu est Dieu puis il mérite l'obéissance. Il y a un amen à cela. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Par elle, par son acte d'obéissance, par elle, il condamna le monde puis devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Quand les chrétiens sont avertis, ils se mettent à l'œuvre puis démontrent qu'ils sont des héritiers de la justice qui s'obtient par la foi. Parce que il a marché dans l'obéissance, mais c'est sa foi qui est démontrée dans l'obéissance. Il y en a qui disent, oh, juste croire. Non, c'est pas juste croire. La foi sans les œuvres est morte. Ta foi est démontrée par ton obéissance. Dieu sait si t'es obéissant ou pas. Quand t'es obéissant, tu marches dans les voies du Seigneur. Ça paraît, puis c'est ça qui dit à Dieu que tu as la foi qui sauve. Puis tu obtiens la justice de la foi par ton action, mais c'est pas ton action, c'est ta foi qui est démontrée dans ton action. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, enseignez-leur à observer ce qui est prescrit. Faut t'enseigner, faut qu'ils mettent en pratique. Puis c'est de même que les gens démontrent leur foi, puis c'est la foi qui donne le salut. Les diverses trompettes, je finis avec un dernier verset, sont pas sonnées pour créer un effet de panique pour les chrétiens, mais ce sont des avertissements pour que les chrétiens relèvent leur tête. Parce que quand il y a des gens qui dorment spirituellement, des fois, c'est des combats spirituels, des fardeaux qui ont traîné pendant des années, puis des combats, puis des difficultés, puis ils sont accablés, puis ils sont écrasés, puis là, ils marchent le dos courbé, puis des fois, ils marchent en rampant parce qu'ils sont fatigués, puis sont épuisés, puis sont blessés, puis sont tous démolis par les attaques de l'ennemi, puis les attaques des humains, des fois. Mais Dieu dit, regarde les signes, là, puis regarde pas ça comme quelque chose qui va t'abattre encore plus, regarde ça comme une chose qui te donne l'occasion de relever ta tête, sachant que Jésus t'avait de revenir. Dans Luc 21-28, Jésus, dans ces passages-là où il parle de son retour, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Que même s'il y a des gens qui trouvent la vie difficile, qui trouvent la vie dure, regardez à Jésus, Jésus s'en vient, il revient bientôt, puis notre délivrance approche. Tantôt, on l'a chanté dans un des chants. Quand il va revenir, il va y avoir des gens qui vont être enlevés, puis ça va être le free-for-all sur la planète. Mais ceux qui l'attendent, c'est une délivrance. Délivrer des fardeaux de cette vie, des combats, des difficultés, des attaques, des troubles, des oppressions. Il y en a qui vont être en prison. Il y a des chrétiens qui, leur famille, ont été tués, puis toute la quête à cause de leur foi, des persécutions. Le jour de Jésus, quand il va revenir, c'est une délivrance pour tout le monde. Quand on est averti par les trompettes, qui sont des signes d'avertissement, relevons notre tête, redressons-nous, notre délivrance approche. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Qu'en ce jour, Seigneur, que ce soit un jour de rappel des choses que tu as annoncées qui vont s'accomplir. Le son des trompettes, Seigneur, les signes qu'on va voir dans cette vie qui sont des grandes choses qui vont arriver, des catastrophes qui vont arriver, mais tu veux nous avertir de relever notre tête puis de regarder à toi parce que tu reviens bientôt. Puis on veut être debout quand tu vas venir nous chercher. On veut être en train de travailler avec toi, marcher en communion avec toi, puis te servir dans ce monde. Seigneur, garde-nous bouillants. S'il y a des gens qui sont faibles, qui sont blessés, qui sont abattus, qui sont écrasés par les choses de cette vie, je te demande de les relever, de les fortifier, puis de les aider à ce qu'ils regardent à toi, puis qu'ils regardent uniquement à toi pour continuer à aller de l'avant, puis aller chercher auprès de toi la force qu'on a besoin pour continuer à rester debout. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.